Le monde déteste la police et tout. Le monde déteste la police et tout. Le monde déteste la police et tout. Le monde déteste la police et tout.
Bonjour, c'est le 11e numéro de What the F Podcast, un podcast de Fanny Noël. Bienvenue.
L'idée, c'est de verbaliser le harcèlement de rue. C'était un engagement de campagne du président de la République. Et les forces de l'ordre vont pouvoir, comme l'a indiqué le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, mettre des amendes entre 90 et 750 euros selon qu'elle est minorée, payée maintenant ou payée plus tard après des relances. Il y aura une personne qui aura été condamnée pour outrage sexiste ou sexuel, qu'elle aura dû payer 90 euros immédiatement ou qu'elle aura reçu chez elle, à son domicile, des documents indiquant qu'elle doit payer jusqu'à 750 euros.
Alors au début, vous avez écouté du son extrait d'une vidéo d'une manifestation qui avait eu lieu en 2016 à la suite de l'évacuation du lycée Jean Jaurès à Paris, suivi de Marlène Schiappa, ministre ou secrétaire d'État, je ne me rappelle plus, chargée de l'égalité femmes-hommes, etc., sur le harcèlement de rue. On est confiné, mais la police ne l'est certainement pas, vu qu'elle fait ce pourquoi elle existe, surveiller, punir, violenter les populations vues comme dangereuses et protéger les intérêts de la bourgeoisie et de l'État bourgeois. La police, c'est notre sujet d'aujourd'hui avec la question « Les féminismes détestent-ils la police ?» Et dans la deuxième partie, le concept du jour, le mot du jour, le militantisme. Est-ce que tout le monde déteste la police? Du point de vue de la police, tout le monde déteste la police, vu que si on n'est pas parfaitement en alignement avec leur toute-puissance, on les déteste. Jusqu'à, on voit que les syndicats de police même disaient que le gouvernement était contre eux, tout le monde est contre eux. Tous ceux qui disent pas qu'il faut leur donner un blanc-seing et carte blanche pour tout est contre. Alors du point de vue de la police, tout le monde les déteste. Alors du côté des féministes, alors là, on a des lignes différentes. Et même si on a des lignes différentes, il y a clairement une tendance majoritaire dans les féminismes. Et quand je dis les féministes, je dis tous les féminismes radicaux, les féminismes marxistes, les féministes libéraux ou dits féminismes blancs, l'afroféminisme, le féminisme décolonial, the black feminism. Voilà, plein de types, tous les féministes. C'est-à-dire si on prend tous les types de féminisme ensemble, on va dire qu'il y a une ligne majoritaire, globalement majoritaire. Si ce n'est pas du soutien à la police dans son institution, au moins quelque chose qui est de la légitimation. Qu'est-ce que je veux dire par légitimation? Alors, ce sont les discours qui reposent sur le fait que le problème avec la police, du point de vue des luttes féministes, c'est pas l'existence de la police en soi, mais c'est le fait que l'institution est défaillante. C'est-à-dire que l'institution ne fait pas ce qu'elle devrait faire, surtout concernant les violences genrées, les violences sexuelles, les violences contre les femmes et le patriarcat. Donc, on légitime le fait que cette institution doit exister, mais on critique le fait qu'elle ne fasse pas son travail comme elle devrait le faire. Et c'est là où c'est un cul-de-sac, parce que la police, en fait, est une manifestation de l'État, une manifestation d'un État bourgeois capitaliste et raciste dans un système capitaliste, raciste et patriarcal. Donc la police fait exactement ce pourquoi elle existe. Elle fait exactement, elle est parfaitement dans ce rôle, ce pourquoi elle existe. Donc c'est-à-dire elle est occupée à punir, à violenter des populations, c'est-à-dire soit les prolétaires, et dans ces prolétaires, il y a des personnes racisées qui sont majoritairement représentées, des hommes racisés qui sont majoritairement représentés dans les victimes de la violence de la police, mais aussi protéger les biens de la bourgeoisie et vraiment verbaliser contre l'atteinte sur les biens ou les personnes qui font quelque chose. Donc il y a des personnes qui sont dans le viseur de la police parce qu'ils sont Donc, ils sont des hommes noirs et arabes, majoritairement, des hommes pauvres, des hommes prolétaires. Et il y en a, c'est dans le cadre de ce qu'ils font. Donc, on a vu ça avec les gilets jaunes, avec les manifestations, les manifestants, etc. Donc, on voit bien que ça rentre dans le cadre de l'activité principale de la police et c'est en parfait alignement avec les intérêts de l'État bourgeois et de la bourgeoisie dans la gestion de certains corps, de certaines populations et de populations qui sont vues comme dangereuses. La protection des femmes contre les violences sexuelles, contre les violences patriarcales, ne fait pas partie du cœur de mission de la police et n'a jamais fait partie, et c'est pas un hasard que ces violences ne sont pas une priorité et ni prises au sérieux. Donc, si on se focalise sur le fait de changer la police pour qu'elle prenne en compte ces questions sérieusement, ça revient en fait à juste créer des nouvelles formes de justification de son existence et de son pouvoir comme institution qui est là pour nous protéger. C'est-à-dire, si on essaye de la changer, c'est-à-dire, on dit c'est la seule institution qui est là pour nous protéger et on va la changer pour que effectivement elle nous protège. Et on se mord la queue. Parce que ces justifications peuvent être utilisées, c'est même pas elles peuvent, elles sont utilisées concrètement dans des discours sécuritaires, des discours de pinkwashing, des discours d'extension du domaine de la surveillance de l'État. Pour renforcer la légitimité et de la police et de son invasion dans nos vies et de sa présence et de sa militarisation et du fait qu'ils soient de plus en plus armés et du fait qu'il faut qu'ils soient de plus en plus présents et du fait qu'ils aient de plus en plus de droits et qu'on ne peut pas leur dire si parce que sinon c'est de. Comment ça s'appelle ce truc encore? Subordination ou je sais pas quoi là, quand ils disent qu'on les a insultés, on voit bien que ces discours sont tournés vers la criminalisation des populations du prolétariat et des personnes racisées qui sont surreprésentées dans le prolétariat si on rapporte à leur pourcentage dans la population. Et on voit bien ça, on voit ça dans, par exemple, le débat sur le harcèlement de rue. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tout le truc qu'il y a eu de l'affaire de Cologne, les discours sur des territoires plus dangereux que d'autres, sur des gens où ce serait vraiment inhérent à leur culture, à leur être, d'être ça, et qu'il faut les supprimer de l'espace public pour enlever ce danger. Et ça aussi, ça centralise le fait que les violences patriarcales, c'est l'espace public. Donc il y a tout un discours sur les violences patriarcales, les violences de genre et les violences sexuelles, du violeur inconnu derrière une ruelle la nuit, etc. Qui est en fait minoritaire, vu que la plupart des violences, surtout sexuelles, que expérimentent les femmes, elles connaissent leur agresseur. C'est soit un membre de leur famille, soit un de leurs proches, soit sur leur lieu de travail, en termes de harcèlement sexuel, de viol, de violence ou d'agression. Donc, ça vraiment, ça renforce le fait qu'il y a voilà, des mecs dans la rue comme ça, etc. C'est l'autre, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un qui est étranger dans le sens qui nous est étranger, que par hasard, et que comme on était dans un coin sombre, et que ça arrive comme ça, et que c'est l'espace public, et c'est cet espace public qu'il faut, entre guillemets, nettoyer, et non pas se concentrer sur le fait que le patriarcat, étant un système qui a des millénaires de pratiques, n'a pas besoin vraiment, a moins besoin de l'État comme médiateur de la domination, c'est-à-dire pour faire des lois, etc., mais est tellement ancré dans les pratiques de tous les individus et dans ce qu'on appelle la cellule familiale et le travail, mais la cellule familiale, que c'est là qu'il est le plus présent. C'est-à-dire que la sphère familiale, la sphère de proches, la socialisation, les sphères privées et l'endroit. Et un endroit qui est le plus dangereux pour les femmes. C'est l'endroit le plus dangereux pour les femmes. Alors qu'on voit que les victimes de violences policières sont majoritairement des hommes, les victimes de la violence au sein de la sphère privée, bah, ce sont des femmes. Donc ce discours, il centre vraiment sur la sceptisation de l'espace public. Donc on voit que ça parle jamais de, par exemple, ça parle rarement de l'harcèlement au travail universitaire. Ou même, comme on a vu, dans le milieu du cinéma, avec des violences sexuelles dans le milieu du cinéma, des gens comme Roman Polanski, où il y a eu toutes sortes de contorsions et de justifications pour dire pourquoi il était en liberté, qu'il avait le droit de jouir de sa liberté. Est-ce que cela veut dire que parce que les bourgeois ne sont pas tenus responsables pour être des porcs, que tout le monde a le droit de l'être? Donc en mode, ouais, que si Polanski il est pas condamné parce que c'est un violeur, un mec prolétaire, si c'est un violeur, lui non plus devrait ne pas être condamné. Est-ce que ça veut dire ça? Non. Ou est-ce que ça veut dire que les victimes ne doivent pas porter plainte? Encore non plus. Parce que le fait est que actuellement, ça vaut pour la police, mais ça vaut aussi dans le cadre de la prison. La police est une institution clé dans la gestion de la violence, c'est-à-dire dans la gestion de la violence contre entre les individus les uns sur les autres. Et ça, si c'est une institution clé dedans, c'est parce que c'est la résultante d'un système et de son organisation. Donc il ne s'agit pas d'envoyer chaque personne individuellement à des choix, et après on jugerait ses choix moralement, en mode et porter plainte ou ne pas porter plainte, est-ce que si on porte plainte, c'est-à-dire qu'on est complice de la police, surtout qu'on n'est pas en mesure, et ça c'est vraiment quelque chose d'important et qui renvoie à notre responsabilité collective en tant que militante, en tant que personne qui organise et qui essaye d'organiser des mouvements de masse ou d'être dans les luttes, qu'on n'a pas la capacité actuellement de proposer une réponse collective à la violence, à la réparation pour les victimes de la violence, et aussi à tenir responsable les personnes qui ont commis cette violence sans que ça passe ni par la police ni par l'emprisonnement par la prison. Donc que ce soit les victimes de violences sexuelles ou même les victimes de violences policières, elles portent plainte dans cette même institution qui est toujours raciste, patriarcale et capitaliste, parce que pour le moment, il n'y a pas d'autre alternative en termes de réparation, rétribution. Même si je fais partie des gens qui pensent que la prison n'est pas réparatrice pour les victimes, mais il n'y a pas d'autres moyens collectifs de gestion de l'éloignement, parce que même dans la société idéale, il y aura toujours des gens qui tueront d'autres gens, qui violeront d'autres personnes, qui les agresseront, qui feront des atteintes à leur intégrité physique. Donc il n'y a pas une gestion collective qui ne passe pas par l'État, qui ne soit pas dans les mains de l'État et qui ne soit pas dans les mains de cette institution qu'on appelle la police, de l'éloignement, de la réparation et de la justice. Donc dans ces conditions, on ne peut pas juste renvoyer les gens en mode « Ah ben en fait, la police, on doit abolir la police, et en attendant qu'on abolisse la police, si tu te fais agresser, ben voilà. » Donc ce n'est pas possible. Ce que ça aide de penser, une politique qui vise à la fin de la police, ça aide de penser les étapes de comment on arrive à là. Comment on pense collectivement la justice. Ça veut dire quoi la justice? Ça veut dire quoi la réparation? Et il y a tout un concept, un système, une démarche qui s'appelle la justice restaurative, la justice réparatrice et la justice transformatrice, qui propose l'organisation collective de la réparation et de la réponse à la violence. Mais ça peut se faire que collectivement. Ça ne peut pas être juste mis dos à dos à les victimes, parle à l'agresseur ou vice-versa, et après on voit comment vous pouvez vous débrouiller. C'est-à-dire qu'il faut que collectivement, on arrive à penser des espaces. Déjà à l'échelle, ça peut commencer à New York par exemple, ça se fait à l'échelle du quartier, d'un immeuble, de comment on arrive à trouver un système juste qui répare le tort qui a été causé par la victime, mais pris en charge par tout le monde, que le tort physique, psychologique, émotionnel, et aussi qui permettent de transformer cette expérience de la violence en quelque chose d'un apprentissage de comment on réduit la violence pour toute la communauté, parce que le tort qui est fait à une victime, elle est fait collectivement. Donc, c'est pas que la victime qu'il faut réparer, c'est tout le tort qui est fait à la collectivité. Donc, c'est pour ça que les discours sur l'abolition de la prison, la fin de la prison, le féminisme anticarcéral, sont très liés et doivent être pensés avec les discours sur l'abolition de la police et la fin de la police comme médiateur essentiel et central de la résolution, et j'ai dit mais résolution entre guillemets, de lorsqu'il y a de la violence. Mais en attendant, vu qu'à présent, on n'a pas les capacités de proposer une alternative, on ne peut pas renvoyer les victimes à des jugements moraux sur ce qu'elles font ou ce qu'elles ne font pas. Donc c'est la responsabilité, et ça sert à ça le militantisme et les organisations et les projets de société, de créer des crash tests. comment ça s'appelle ? Ça veut dire d'expérimenter. Donc, c'est notre responsabilité de commencer de balbutier, mais même pas sur des choses qui peuvent aussi être violentes que, par exemple, le viol. C'est-à-dire sur des choses, peut-être sur des choses plus petites. C'est-à-dire réfléchir, à quoi ça ressemble, un processus de justice transformative à l'échelle d'une organisation, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un immeuble, à l'échelle d'un mouvement. À quoi ça ressemble ? Et d'essayer et de voir est-ce comment ça marche, c'est quoi les défis, c'est pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas, quand est-ce que ça marche, pourquoi c'est difficile, qu'est-ce que ça demande, pour qu'on puisse venir avec des solutions qui sont en dehors de l'institution, de la police et de la prison. Donc voilà, donc la réponse était à est-ce que les féministes détestent la police, une minorité, pas toutes. Et c'est pour ça qu'il faut que ça change. Dans cette deuxième partie, le concept du jour, c'est militant. Militant, militer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je parle de ça parce que je pense qu'il y a vraiment un flou. Qui est du fait de la différence entre engager, avoir un avis politique sur des choses, c'est-à-dire dire des choses, mettre du sens politique, c'est-à-dire mettre du sens politique à des conditions de domination, faire sens, dire que voilà, c'est ça la condition de dominer, ben on met un sens politique à ça, c'est-à-dire le dire publiquement, l'articuler, l'analyser, et d'avoir une parole qui est engagée et positionnée sur ça, et d'être militant, et de militer. Et c'est deux choses différentes. Et après, il y a des confusions qui sont un peu dommageables. Parce que c'est pas juste des appellations en mode « Ah oui, on peut être militant tout seul, non. » Militer, c'est vraiment mettre en mouvement. Et mettre en mouvement, c'est mettre en mouvement collectivement. C'est s'organiser collectivement. C'est avoir des débats collectivement. Se prendre la tête souvent collectivement, ancrer, accompagner. Donc ça demande une concertation avec plus que soi-même, avec 2, 3, 4 personnes, etc. Ça demande une concertation avec plus que soi-même déjà. Donc militer, ça demande qu'on ne soit pas tout seul à, derrière son ordinateur à produire des choses. Et ça demande aussi que l'objectif, aille beaucoup plus loin et dépasse la situation individuelle et le changement individuel. Ça veut dire militer, ce n'est pas produire des choses pour que les gens se sentent bien individuellement. C'est-à-dire ce n'est pas que produire du sens politique, dire je vais vous produire du contenu ou je vais avoir des contenus ou des choses qui va faire que vous allez comprendre pourquoi vous vivez ces situations de domination. Et comme vous allez comprendre pourquoi vous vivez ces situations de domination, ça va baisser le niveau et d'anxiété et d'incompréhension et de sentiment de non-légitimité et parfois d'être parano pour vous individuellement. Donc non, Donc le but du militantisme, ce n'est pas faire en sorte que les gens se découvrent et se déconstruisent. Ça, c'est pas le but du militantisme. Le but du militantisme, c'est pas que les gens se découvrent et se déconstruisent. Le but du militantisme, c'est mettre en mouvement, au sein d'organisations, au sein de luttes, vers un projet politique avec des objectifs, une stratégie et un agenda. Ça veut dire, c'est de dire collectivement pourquoi on est ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Comment on va le faire ensemble? Et surtout, dans quel but? C'est quoi la société qu'on veut après? Qu'est-ce qu'on veut changer? Et après, dedans, il y a différents types. Il y a être révolutionnaire, c'est-à-dire c'est pour un changement de système qui va passer notamment, obligatoirement, par une période, par une phase de violence, parce que les changements, c'est rarement dans la paix de l'esprit. Des choses plus réformistes, c'est-à-dire que des choses qui sont, on va s'investir dans des partis politiques dits traditionnels, être élu, etc. Et après, des choses, on va dire, plus libéraux, c'est-à-dire qu'on va changer un peu les contours. Changer des petites choses par petites couches. Mais militer, c'est pas quelque chose qui est intrinsèquement positif. C'est-à-dire que les militants du Front National, de La République En Marche, de La France Insoumise, des patriotes, là, et des militants sur les violences policières, en fait, ils militent, c'est-à-dire qu'ils mettent en mouvement. Ils mettent en mouvement pour des projets totalement antagonistes, pour des projets qui sont à l'opposé, pour des valeurs qui sont à l'opposé, pour des modes de pensée du monde qui sont à l'opposé, mais ils militent, c'est-à-dire ils militent, ils mettent en mouvement collectivement et des personnes pour rejoindre, pour avoir leur projet de société, leur vision de la société, qui l'emporte dans la guerre idéologique qui a lieu, mais pas que dans la guerre idéologique, pas que dans les idées, pas que dans la production des idées, mais dans la mobilisation et dans la visibilité de ces mobilisations et de la visibilité de ces luttes. Et qu'est-ce que ces luttes gagnent? Bien sûr, il y a des gens qui militent et c'est plus facile pour eux parce que leurs intérêts sont alignés avec l'intérêt actuel de l'État bourgeois. Si on a, il y a des militants qui sont des libéraux capitalistes, c'est beaucoup plus facile vu l'état du monde et l'état de la société que pour les anarchistes, les crypto-marxistes ou les trotskistes ou les anarchistes. Donc voilà. Donc après, ça dépend de la proximité de son projet politique avec le projet politique du système et de la difficulté qu'il y a. Donc ce sera beaucoup plus facile pour des personnes qui militent, pour le leadership féminin, pour du féminisme libéral, d'avoir que leur mise en mouvement collectif porte à quelque chose, vu qu'ils sont plus proches du pouvoir, vu que leurs intérêts sont plus proches des intérêts actuels, que pour des personnes qui portent un afroféminisme radical, vu que leurs intérêts et leurs visions sont totalement éloignés de ce qui existe. Donc ce que je voulais dire et qui est extrêmement important, pourquoi c'est dommageable de confondre les choses, c'est que ça démobilise les gens, ça pense, parce qu'après on peut penser que parce qu'on a une parole publique et qu'on dit des choses, qu'on est militant, donc ça sert à, que c'est pas la peine qu'on aille s'engager dans des organisations de terrain, faire des choses collectivement et faire des choses qui ne soient pas portées que sur son expérience individuelle mais la transcender. Et aussi, ça brouille le discours militant avec d'autres types de discours qui ne sont pas militants. C'est-à-dire que les discours militants qui sont dans le cadre d'organisations militantes, c'est des organisations qui proposent un projet politique. Et pour pouvoir discuter de ce projet politique, pour pouvoir le critiquer, pour pouvoir le challenger, pour pouvoir le modifier, il faut qu'on ait très clairement en tête qui sont les gens, dans quel mouvement, pour quelle société et comment ils s'organisent. Et que tout ne peut pas être égal par ailleurs. Ça pousse aussi les organisations quand on fait cette démarcation en disant que les militants, on leur tient à une éthique particulière, c'est-à-dire que l'éthique qu'on a sur les militants, c'est pas la même éthique qu'on va demander à des personnes qui disent des trucs poétiques random. C'est-à-dire que il y a souvent des... des call-outs et des chistons sur Twitter. On ne peut pas tenir à la même éthique et la même rigueur des personnes qui ont soit une parole politique, politisée, c'est-à-dire qui ont une parole qui donne du sens politique, et des personnes qui sont dans une organisation et que ces organisations prétendent proposer un projet de société, proposer une autre organisation de la société. C'est-à-dire que c'est deux choses différentes. Et c'est dommageable pour les deux. Parce qu'il faut faire la différence des deux. Et il faut aussi décorréler le fait que militant est égal positif. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un n'est pas militant qu'il fait pas quelque chose de bien. C'est pas obligé d'être militant pour faire des trucs qui sont intéressants, pour faire des choses bien, pour faire des choses qui sont plus importantes, pour faire des choses qui sont un impact. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin du label pour faire ça, mais être militant, ça veut dire quelque chose. Être engagé, ça veut dire quelque chose. Avoir une parole publique, ça veut dire quelque chose. Et parfois, il y a des gens qui ont les trois, et parfois, ces choses ne sont pas corrélées, ne sont pas les mêmes personnes. Et c'est important de les décorréler parce qu'on est dans une époque de beaucoup de bruit, de beaucoup de toutes choses égales par ailleurs. Ça permet d'avoir une vision claire des lignes de fracture entre les individus, entre les mouvements, entre les organisations, des lignes de fracture, mais aussi de là où ils s'opposent et où ils sont en antagonisme. Et ne pas tout mélanger, pas renvoyer juste des individus à des individus et aller à la confrontation avec un individu sur ce point-là, avec un autre individu sur ce point-là, etc. Mais la confrontation avec des mouvements et des projets politiques.
Attention à la marche en descendant du train. Please mind the gap between the train and the platform.
Merci, j'espère que ça vous a plu. On va se quitter avec un extrait issu de la revue ACG, du numéro 2 de la revue ACG, Autodétermination et autonomie par Circé Delisle, un texte qui aborde la différence entre l'identité sociale, identité politique, et qui fait une analyse critique de la notion de vécu dans une approche transféministe et décoloniale. Je rappelle que le numéro 4 de la revue ACG est en préparation. Vous pouvez aller checker sur Instagram, faire un don si vous voulez. Et on va se quitter avec de la musique, avec Lady Birdley, une artiste haïtienne, et son morceau Merci. Et c'est à moi de vous remercier. Et je vous dis au mois prochain. L'idée selon laquelle ce sont les dominés qui sont les plus aptes à rendre compte de leur situation de domination et que leur parole doit être privilégiée sur celle des dominants est un principe important dans la construction historique des luttes marxistes et féministes. Dans « Histoire et conscience de classe », Lukács expliquait que le prolétariat est héritier d'un certain point de vue sur le monde social qui lui donne un privilège épistémologique. Percevoir d'autres réalités que celles de la structure bourgeoise permet, selon lui, de construire une représentation plus juste de la réalité. Le courant féministe de l'épistémologie du point de vue a repris et développé cette idée en soulignant sa double dimension critique et constructive. Si tout discours doit interroger les conditions matérielles et sociales dans lesquelles il s'énonce, se penser comme discours situé, il faut faire appel à une réflexivité critique accrue de la part des chercheurs sur leur propre position de domination. L'introduction de points de vue marginalisés peut transformer la manière dont les objets sont construits et atteindre un niveau plus élevé d'objectivité. Les subalternes ne voient s'ouvrir à elles que les régimes d'expression imparfaits. Comment faire écouter une parole postcoloniale qui se heurte à l'effacement de sa propre histoire par la violence épistémique de l'impérialisme et qui aussi, bien dans l'ombre dans les récits de l'insurrection locaux, l'accent mis sur la construction idéologique du genre, qui prend ici une importance primordiale, suggère un rapprochement. Les sujets transracisés semblent partager cette position paradoxale. Soit leur situation est résumée depuis une position universaliste à une série de faits statistiques déconnectés de la construction idéologique du genre qui les structure, soit la lutte prend la forme d'une réflexion sur des systèmes de genre précoloniaux désormais inaccessibles. Si les personnes transracisées ne peuvent parler en leur propre nom, alors leur vécu sera ignoré et on ne se repliera sur des caractères matériels de l'oppression, au mieux à des discours misérabilistes au pire. Ces difficultés mettent en lumière la nécessité de bénéficier de structures adéquates à l'autonomisation d'une militance trans décoloniale. Si les personnes transracisées ne peuvent accéder à la lutte qu'à la condition de représenter une identité marginalisée ou d'apporter des critiques visant à accroître l'objectivité de discours qui ne les concerne pas, il ne leur est pas possible d'accéder à une politisation de leur expérience. Contre cette vision qui réduit les personnes transracisées à un rôle de consultation, il convient de prendre la mesure de la double violence épistémique qui les vise. Les personnes trans, comme les personnes racisées, ont été historiquement constituées comme des objets de science par l'impérialisme occidental. La médecine, la biologie, la psychiatrie, la science coloniale, l'ethnologie ont été les responsables de cette objectivisation. La réalisation de l'autonomie des personnes transracisées ne pourra s'effectuer qu'en renversant ce geste. Loin de se limiter à une simple critique académique, la remise en question de l'hégémonie de ces disciplines sur le fait trans et la parole postcoloniale constitue aussi une lutte poétique, dans la mesure où elle constitue un front de revendication collective. Par exemple, la lutte pour la dépsychiatrisation des personnes est une lutte indissociablement théorique et pratique contre la réduction du fait trans au diagnostic de transsexualisme. Il s'agit tout autant de s'affranchir de certains concepts et discours transphobes de l'institution psychiatrique et de refuser l'expertise d'un psychiatre dans une démarche légale de changement d'état civil. Pour rendre possible la parole des personnes transracisées, il faut la libérer des structures d'objectivisation qui la réduisent à un sujet d'étude ou au témoignage. De manière symétrique, les femmes transracisées tendent à être définies comme les sujets par excellence de la lutte révolutionnaire parce qu'elles représentent les identités les plus marginalisées aux yeux du militantisme libéral. Cette approche qui prétend défendre l'empowerment des personnes transracisées n'est bien souvent qu'un vœu pieux. En cantonnant les femmes trans soit à la fonction de victimes sacrificielles, soit à une identité esthétisée de queen, on fait mine de les considérer comme des sujets en lutte, quand bien même ces approches ne les considèrent jamais comme de véritables sujets politiques. Contre ces constructions idéologiques qui nous réduisent à des cautions militantes, dans une représentation dont les règles ne nous échappent, il s'agit de dénoncer la fétichisation d'une position sociale au service de son instrumentalisation. La critique théorique et pratique de l'objectivisation du discours scientifique et du simulacre de subjectivisation du libéralisme politique sont un commencement possible de la lutte transféministe décoloniale. Autodétermination et autonomie par Circé Delisle, revue Assiégée, mars 2017.
Font-ils parler avec, font-ils explique.